Bonjour, l'onde curieuse va connaître dans les prochains jours une mue. En effet, dès ce dimanche et jusqu'au dimanche suivant, 27 novembre, fréquence 7 se déplace au centre Étienne-le-Bourneau pour les rencontres des cinémas d'Europe. De fait, à 12h et 17h durant ces 8 jours, vous entendrez sur nos ondes curieuses le journal des rencontres, comme chaque année à pareille période. Des rendez-vous en compagnie des invités de ce festival cinéma animé par l'équipe de l'émission Cinémascope, qui sera absente, elle, demain de la grille de programme. Et pour préparer tout ça, il faut se donner un peu de temps, d'où une onde curieuse aujourd'hui en mode rediff, du moins pour la partie entretien. Nous écouterons à nouveau Marc Dufumier, agroécologue que nous avons pu rencontrer fin septembre dernier dans les jardins du parc naturel régional des Monts d'Ardèche à Jaujac. Ce sera après les infos et le choix musical de l'onde curieuse. Organisations syndicales, associations et organisations politiques, notamment de gauche, dénoncent la banalisation du racisme après des appels au meurtre sur les murs d'Aubenas. Selon un communiqué des 25 mouvements signataires, tout début novembre, une partie de la zone industrielle du bassin d'Aubenas a été recouverte de nombreux tags racistes, néofascistes, ainsi que des appels au meurtre contre les Algériens. Les organisations rappellent qu'elles n'accepteront jamais la banalisation du racisme, banalisation suscitée selon elles par des lois racistes et les dernières campagnes islamophobes, lois séparatisme, durcissement du droit des étrangers, entre autres. Cela vise clairement les personnes issues de l'immigration. Ce contexte facilite les passages à l'acte et instaure un climat de haine dans le pays qui s'exprime aujourd'hui jusque sur nos murs. Ces mêmes syndicats, associations et organisations politiques invitent donc chacun à combattre sans relâche l'extrême droite et le fascisme dans les quartiers, les entreprises et partout où ils se trouvent. Le documentaire peut être un outil de ce combat contre l'obscurantisme et nous ne pouvons que vous inviter à découvrir aujourd'hui en fin d'après-midi à Ruons le film « La terre de Gévar », un documentaire qui retrace le parcours d'un réfugié qui souhaite s'enraciner en France dans la banlieue de Reims. Projection à 18h à la médiathèque et en accès libre, suivi d'une rencontre. À Montpezat, l'association Expression vous propose une conférence aujourd'hui avec Jean-Luc Boissel, professeur émérite, sur le grand roman de la Terre. Quels sont les phénomènes qui ont façonné notre planète? Quelles ont été les conséquences sur le vivant? Et quel est l'avenir de notre planète? Science céleste donc, en cette fin d'après-midi à Montpezat, c'est à la salle polyvalente et plus exactement à 18h. Un nouveau directeur pour le théâtre de Privas, c'est Laurent Cellier qui va rejoindre ce poste dès février prochain. Il va reprendre ou prendre les rênes du théâtre que tient actuellement par intérim Christelle Bonne. Compositeur et artiste sonore, Laurent Cellier évolue depuis plus de 25 ans dans le monde musical. Et il est actuellement en poste à Vitry-le-François dans la Marne où il dirige Bord de Scène, une salle de spectacle à la confluence d'une SMAC et d'une scène conventionnée à dominante musicale, mais enrichie de nombreuses disciplines de spectacles vivants, telles le théâtre, le cirque, la danse ou encore la marionnette. Laurent Cellier prendra ses fonctions au théâtre de Privas le 1er février prochain. Depuis plusieurs années, les Amis d'Aillon imaginent le projet Aranfaïs, un projet qui réunit les écoliers du village et ceux de l'Antillère, ainsi que les jeunes handicapés de l'IME Bétani. Tous ces publics sont encadrés par un ou des artistes et réalisent des œuvres dans la nature. Pour 2023-2024, le projet est déjà dans toutes les têtes. Les artistes sont dans les starting blocks, mais il manque le financement. On aurait pu leur conseiller de demander à Total, mais les Amis d'Aillon préfèrent se tourner vers les habitants du secteur. Ils ont donc lancé un appel participatif dont 65% des dons, rappelons-le, sont défiscalisables. Pour en savoir plus sur ce projet, imaginez et apportez votre soutien financier, eh bien rendez-vous sur le site amidaillon.blogspot.fr. Molière est à l'honneur avec La Bohème en musique. Molière, mais pas que. La Bruyère, Lully et Marais sont aussi du voyage. La compagnie Les Nouveaux Caractères va présenter ce week-end Sacré Caractère, 400 ans avec Molière, un spectacle en création que La Bohème en musique programme à Lagorce, samedi à la Crypte, à Saint-Cernin, dimanche, à l'espace culturel. Ce sera à chaque fois à 17h au tarif de 5 à 15 euros. C'est gratuit pour les moins de 12 ans et les réservations sont toujours les bienvenues sur le site labohème-musique au pluriel.fr. À Aubenas, le festival de cinéma. À Pont-Saint-Esprit, le festival du livre. Du 21 au 27 novembre va se tenir à Pont-Saint-Esprit la 10e édition du festival du livre qui aura pour thème « Partir ». Au programme, des rencontres, des lectures, des conférences, des spectacles, des expositions, mais aussi du cinéma. Tout cela autour d'un « partir » synonyme d'exode, d'exil, d'émigration. Programme complet, c'est sur le net, au site festivallivrepont.fr. Festivallivrepont.fr. Voilà pour l'info. Le choix musical de l'onde curieuse se porte aujourd'hui sur une découverte au nom de The Mighty Mocambos, les puissants Mocambos, comme ces communautés d'esclaves en fuite dans le Brésil colonial du XVIIe siècle, de véritables villages d'esclaves noirs qui bénéficiaient d'une certaine liberté, je mets là des gros guillemets, au regard d'autres pays, d'autres communautés, en esclavage. Mais les Mighty Mocambos, dont nous allons aujourd'hui écouter un extrait, eh bien c'est un collectif allemand de Hambourg qui signe Scénario, premier album live, après 3 albums studio. On va écouter ici une réadaptation d'un titre funk 70s, enfin, ou un peu au-delà, allez, que je vous invite à retrouver sans l'aide, s'il vous plaît, de Shazam, juste avec vos neurones d'êtres humains non augmentés. On s'offre l'une des perles de cet album à l'esthétique, c'est pour ça que je parlais de 70s, franchement funkadélique, dont je tais pour le moment le nom. The Mighty Mocambos et le titre, en version live, Let the Music Play de Shannon. C'était en 1983, ici, nous sommes quasiment 40 ans plus tard. Bon, franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter ce groupe, The Mighty Mocambos, que ce soit sur leurs premiers albums, ça fait à peu près 15 ans qu'ils existent, et on les découvre qu'à présent, surtout si vous aimez le groove, je peux vous assurer que vous ne serez vraiment pas déçus. Comme convenu, aujourd'hui, on rediffuse. On va retrouver Marc Dufumier, agroécologue que les Ardéchois ont pu rencontrer fin septembre à Jaugeac au parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Marc Dufumier, une mine de science qui défend bec et ongle le retour à une agriculture plus saine. Il défend l'agroécologie qu'il commence par nous définir en ce début d'entretien.
Eh bien l'agroécologie, alors pour le commun des mortels, beaucoup pensent que c'est une pratique nouvelle, paysanne, comme il y a l'agriculture biologique, la permaculture, l'agriculture de conservation, et que l'agroécologie serait un nouveau bréviaire. Et je pense que c'est pas ça du tout. De mon point de vue, l'agroécologie, c'est plus une source d'inspiration. Il y a des formes d'agriculture qui relèvent plus ou moins de l'agroécologie, de cette source d'inspiration. Et cette agroécologie peut être présentée, y compris, comme une source d'inspiration fondée sur des bases scientifiques. C'est-à-dire que l'agroécologie peut être présentée comme la discipline scientifique des agroécologues, de ces gens qui essaient de rendre intelligible, pour le plus grand nombre, le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, de ces écosystèmes qui ont été aménagés par les agriculteurs, donc qui ne sont pas complètement naturels, mais qui méritent d'être étudiés pour qu'effectivement les agriculteurs puissent en faire le plein usage au profit du plus grand nombre. Mais je dirais que c'est une source d'inspiration pour modifier les pratiques agricoles avec y compris des fondements scientifiques, c'est-à-dire la photosynthèse, la fixation biologique de l'azote et ce genre de choses, ce qui n'exclut pas que cette même discipline, en regardant ce que faisaient nos anciens, on est capable de récupérer des variétés, des races animales, des savoir-faire paysans d'autrefois, qui étaient des résultats de recherche empirique cette fois, mais qui ont été transmis même parfois par des dictons, des discours parfois même peut-être un peu ésotériques auxquels le scientifique ne comprend rien. Mais oui, je pense que l'agroécologie est une source d'inspiration qui permet et de récupérer ces savoir-faire anciens, de comprendre pourquoi ça s'est maintenu, pourquoi éventuellement ça s'est disparu, et de repérer après le fonctionnement de ces écosystèmes, les interactions qu'il y a entre le milieu physique et les êtres vivants, entre les animaux et les végétaux, entre les espèces domestiques et les espèces sauvages, et de comprendre que tout ça est un tout, c'est un écosystème, certes fragilisé pour les besoins d'agriculture, mais justement, on a besoin de bien comprendre comment ça fonctionne pour éviter de faire des dégâts, et au contraire, l'aménager au service du plus grand nombre.
Alors bien sûr, ceux qui vont entendre ça pourront peut-être se dire « Ah, on est encore en train de regarder dans le rétroviseur plutôt que d'aller droit devant ». Vous dites que vous êtes appuyé par exemple sur des dictons, des choses de ce type, qui étaient des recherches empiriques. Aujourd'hui, ce sont des recherches scientifiques. C'est-à-dire qu'on a repris peut-être ce qu'on connaissait de nos aïeux et aujourd'hui, on a fait des recherches scientifiques qui ont prouvé en fait que, en fait, ils avaient plus que raison.
Alors, l'agroécologue est un scientifique qui lui étudie les fondements même de fonctionnement de ces agroécosystèmes et de façon donc totalement différente de celle des paysans qui, eux, finalement, faisaient des expériences, ça a été mémorisé dans leur tête, ça a été transporté par des dictons. Aujourd'hui, on a des moyens de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes aménagés par les agriculteurs, par des voies scientifiques, et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Mais par contre, l'agroécologue aujourd'hui, qui essaie de mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes anciens et aujourd'hui, à la différence de l'agronome un peu normatif, qui savait ce que c'était qu'une variété améliorée, qui savait que c'était une mauvaise herbe, qui savait ce qui était le bien, qui savait ce qui était le mal, maintenant là, l'agroécologue, il étudie avant de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et on découvre que c'est beaucoup plus compliqué. Et éventuellement, on est obligé de revenir à des principes fondamentaux de la biologie. Alors je vous dis tout de suite, c'est du béaba de la biologie, mais puisque l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil, la question qui peut se poser, comment utiliser au mieux cette énergie renouvelable et gratuite par une couverture végétale la plus totale, la plus permanente possible. On sait que cette énergie qu'on appelle un peu hydrate de carbone, vous savez, le sucre, les lipides et autres, la ration carbonée de notre ration, la plante trouve le carbone dans le gaz carbonique, gaz à effet de serre pléthorique. Du coup, la question de comment faire un usage intensif de ce gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène, fabriquer le sucre, les lipides, l'amidon et éventuellement séquestrer du carbone dans l'humus des sols, voilà un travail travail d'agroécologue. Il y a des savoir-faire anciens qui nous montrent parfois comment on peut faire, mais c'est clair que la science permet de progresser pour qu'on séquestre encore davantage de carbone dans le sol, surtout qu'on découvre aujourd'hui qu'il faut aussi un peu d'azote et ce genre de choses. Et si on veut ne pas trop émettre de protoxyde d'azote, fabriquer des protéines riches en azote, sans mettre d'engrais azotés de synthèse, très polluants et très contributeur au réchauffement climatique, le protoxyde d'azote, ben les légumineuses, alors les légumineuses, il y a des savoir-faire anciens, mais évidemment, aujourd'hui, on peut mieux comprendre comment ça fonctionne, comment des microbes s'incrusent dans la racine, utilisent l'énergie de la photosynthèse de la plante, interceptent l'azote, la refilent à la légumineuse, et de regarder la biodiversité, le fonctionnement. Puis je vais vous dire, aujourd'hui, y compris pour aller chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles, on utilise des champignons mycorhiziens. Ben, je vais vous dire, nos ancêtres ne savaient pas ce qu'étaient des champignons mycorhiziens. Ils connaissaient la truffe, parce que c'est bon. Mais savoir qu'il y a des champignons qui s'incrusent dans la racine de l'arbre, qui s'incrusent dans la racine de la plante annuelle, va aller chercher parfois des éléments minéraux en sous-sol, quand ils s'incrusent sur une racine d'arbre, et la roche mère est altéré, libère des éléments minéraux, le champignon vient l'intercepter, le redonne à l'arbre, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille de l'arbre, la feuille de l'arbre tombe à terre, ça fertilise la couche arable, la couche superficielle. Et alors aller chercher ces éléments minéraux coincés dans les argiles, écoutez, nos grands-mères, nos grands-pères ne savaient pas tout ça, mais on redécouvre parfois avec des fondements scientifiques le bien fondé de certaines pratiques paysannes, on redécouvre aussi parfois pourquoi certaines pratiques anciennes ont disparu, parce que c'était pas totalement fondé justement, et du coup oui, il faut surtout pas opposer les résultats de recherche empirique paysanne de longue date avec des recherches extrêmement savantes aujourd'hui, hein, l'écologie des sols, la microbiologie des sols, les interactions entre tous ces éléments qui sont tantôt des microbes, tantôt des champignons, tantôt des bactéries, des champignons saprophytes ou des champignons mycorhiziens, avec évidemment il y a des vers de terre, il y a des clopoles, il y a des colamboles, et puis dans l'atmosphère il y a, n'oubliez pas, sur les hautes tiges il y a des mésanges qui vont s'attaquer aux larves de Capocaps, et du coup peut-être qu'on ne sera pas obligé de mettre des pesticides pour ne pas trouver de vers, de petits vers dans nos pommes. Voilà, et là la science agroécologique, les agroécologues donc, qui inspirent beaucoup l'agroécologie, oui, sont d'une très très grande utilité.
Est-ce qu'il faut, je sais que vous n'aimez pas, je crois, mettre d'un côté une chose, de côté l'autre, est-ce qu'on peut différencier justement l'agroécologie et l'agriculture moderne, je veux dire simplement moderne, vous avez parlé tout à l'heure de pesticides, on sait aujourd'hui tout le mal que cela peut faire, est-ce que c'est une opposition ou est-ce que les deux peuvent travailler ensemble?
Alors il y a une opposition, mais déjà les agricultures qui vont s'inspirer de l'agroécologie, comme c'est très novateur, on va pouvoir les qualifier de modernes. Et ce qu'on appelle peut-être un peu abusivement agriculture moderne est une agriculture qui est déjà peut-être un peu usée, un peu obsolète. Hein. Elle emploie des pesticides, mais il y a des insectes résistants aux pesticides qui commencent à proliférer, on ne sait plus trop comment faire, on fait une deuxième molécule pesticide, une troisième molécule pesticide, c'est de la fuite en avant. Et en fait, ça, c'est peut-être justement désuet. Et ne pas utiliser les prédateurs des ravageurs, mais utiliser plutôt des produits en cid. Et cid, ça extermine. Mais du coup, il y a toujours des mutants résistants. Et puis, quand on s'attaque à un insecte, est-ce que le produit en cid n'en a pas attaqué un autre? Alors ça, soyons clairs, hein, c'est du passé. C'est vraiment dérisoire. Mais du coup, je ne la qualifie pas de moderne, hein, cette agriculture-là. Je la qualifie plutôt, au contraire, d'industrielle. Si elle s'est inspirée de processus industriels, il faut produire à grande échelle pour diminuer le coût. Du coup, on va mécaniser, motoriser, robotiser, droniser même aujourd'hui. On va remplacer des gens par des machines. On a créé du chômage. Ça, la création de chômage, oubliez, je pense que c'est vraiment désuet, il faut abandonner ça. Hein. Donc c'est vraiment, il faut passer à une agriculture plus moderne, plus intensive en emploi, si vous en êtes d'accord. Mais du coup, cette agriculture-là, on voit bien qu'elle est à bout de souffle. On voit bien que les filières bas de gamme, les poulets de moins de 40 jours, même le blé à 90 quintaux, mais qui exige énormément d'engrais, de pesticides, etc. Être compétitif avec un blé ukrainien ou russe quand il n'y a pas de guerre, c'est vain. La betterave à sucre compétitive avec la canne à sucre sur une ferme de 40 000 hectares au Brésil sous le soleil, c'est vain. La poudre de lait en Bretagne pour être compétitif avec le lait Nouvelle-Zélande pour la Chine, c'est vain. Tout ça, c'est dérisoire, d'où les faibles revenus des agriculteurs, d'où le taux de suicide aujourd'hui dans la profession agricole. Là, cette agriculture-là, je pense qu'on ne peut pas la qualifier de moderne. Elle est vraiment désuète. Elle était même très trompeuse aujourd'hui. Je comprends que des gens très endettés, parce qu'ils auront investi dans un robot de traite, ne peuvent pas diversifier leur système, ils sont obligés de faire que du lait. Celui qui a investi dans une moissonneuse batteuse n'aura peut-être pas envie de mettre du lin dans sa rotation, parce qu'il faudrait un matériel spécifique. Donc il y a bien une inertie qui existe pour passer à autre chose et à une agriculture moderne et respectueuse de l'environnement, je veux bien qu'il y a une inertie liée à des niveaux d'endettement, peut-être aussi à des manques de formation, peut-être à une incompréhension d'ailleurs scientifique de ce pourquoi il faudrait absolument aujourd'hui changer. Opérer une vraie révolution technique, ça ne peut pas être un grand soir. Ce sera quand même une transition, ça demandera plusieurs années pour que l'immense majorité des agriculteurs soient convaincus et les moyens, et que ce soit de leur intérêt. Il faudra bien qu'on parvienne par des arguments économiques, subventions, taxes, prix incitatifs, prix dissuasifs, par peut-être quelques interdictions quand même pour certains pesticides, mais le moins d'interdictions possible, parce que ce n'est pas une écologie punitive, hein, qu'il va falloir aussi que ce soit incitatif à faire autre chose, c'est la rémunération de l'agriculteur. Et donc oui, il faut changer complètement notre politique, et là je vous dis tout de suite, il faut vraiment qu'on va penser une politique agricole nouvelle pour promouvoir des agricultures modernes, inspirées d'une agroécologie scientifique, mais qui récupère bien des savoir-faire, des variétés tolérantes aux insectes et des choses issues d'avant. Et ce genre de choses, cette agriculture moderne, il va bien falloir la promouvoir. Et c'est bien toute notre agriculture industrielle qui va devoir changer. Et là où souvent on me dit, il ne faut pas les opposer. On me dit, il y a bien une agriculture bio plus chère, parce que plus artisanale, plus exigeante en travail, il faut bien le rémunérer. Donc le produit sera plus cher. Donc pour les gens qui peuvent acheter, il y aura des produits bio et sains. Et puis pour les autres, il faut quand même une alimentation au moindre coût monétaire. Sauf que vous aurez des perturbateurs endocriniens, vous aurez des antibiotiques, et ça, ce n'est pas bon pour la santé. Et bien moi, l'idée qu'il y aurait une agriculture biologique pour les bourgeois bohèmes, et une agriculture industrielle bourrée de résidus pesticides, d'antibiotiques, et des gens qui vont développer des antibiorésistances parce que c'est des couches modestes, moi ça m'insupporte. Donc oui, l'opposition entre les deux, elle mérite d'être soulignée, surtout pour dire c'est bien toute notre agriculture qui va devoir changer en s'inspirant d'une source d'inspiration que j'appelle l'agroécologie et qui a des fondements scientifiques.
Oui, et que vous n'hésitez pas à dire qu'on va... On va vers une révolution agriculturelle, presque, j'oserais dire.
Alors, c'est une révolution agricole, effectivement, agricole. Et y compris parfois culturelle, et culturelle. Je pense qu'il y a un peu une révolution culturelle, parce que je crois qu'encore aujourd'hui, l'immense majorité des agriculteurs, et même des consommateurs, pensent un peu, l'agriculture moderne, c'est quand même la chimie, quoi. L'agriculture moderne, on simplifie, on spécialise, monoculture, monoélevage, à un endroit la viticulture, aux autres le lait, à l'autre les pailles, on ne met plus les animaux sur la paille, on ne fait plus de fumier, il y aura du lisier, et vous nous ennuyez quand vous commencez à dire que le lisier, à part des algues vertes, fertilise les algues vertes sur le littoral breton. Alors, ah, ces amis, non, c'est pas ça du tout. Et donc, il y a bien une révolution culturelle pour qu'on comprenne, non, il y a bien des fondements scientifiques, même si c'est vrai qu'on récupère des savoir-faire anciens, même si c'est vrai qu'il m'arrive de dire on va remettre des haies, on va remettre les animaux sur la paille, on va refabriquer du fumier. Mais attention, l'agriculture moderne de demain, on va inoculer des champignons mycorhiziens, on va faire un savant mélange d'insectes prédateurs, des ravageurs, et comme ça il y aura moins de ravages. On va essayer, y compris sur des variétés nouvelles qui ne sont pas celles de nos grands-parents, mais en prenant des principes d'une variété qui évolue et moins sensible aux insectes piqueurs suceurs, parce que les pucerons ont eu des difficultés à piquer et sucer parce que la variété est évolue. On va chercher et sélectionner peut-être des variétés lisses pour que quand le papillon dépose son œuf, il tombe tout de suite à terre, il n'y a pas de développement de larves sur la feuille. Alors, c'était des savoir-faire de sélection empirique autrefois chez nos grands-parents, mais aujourd'hui, on peut très bien raisonner scientifiquement maintenant de nouvelles variétés, mais qui portent ces caractéristiques-là. Puis maintenant, même on sait, figurez-vous, la science a progressé, que certaines variétés à feuilles lisses tolèrent la présence et de chenilles, enfin de papillons, mais parce que quand le papillon dépose son œuf, hop, ça tombe à terre, et aux insectes piqueurs suceurs, parce qu'on sait que dans le petit trou qu'a occasionné le puceron, l'insecte piqueur suceur sur la plante, par ce petit trou se dégage un gaz volatile qui attire la coccinelle qui s'attaque à l'insecte piqueur suceur. Tout ça, nos parents ne le savaient pas. C'est peut-être le produit d'une longue évolution auquel ils ont participé, mais maintenant, cette compréhension scientifique qu'on a de choses bien fondées, eh bien, je vais vous dire, ça peut faire considérablement progresser les choses. Oui.
Alors, pour progresser, il faut avoir l'appui de tous. Alors, on peut avoir l'appui du consommateur, on peut avoir l'appui de l'agriculteur, l'appui des scientifiques, l'appui... Mais il y a toujours quand même, on l'a vu dans la conférence que vous avez donnée, dans les questions, tout de suite, il a été, dans ces questions qu'on vous a posées, il a été question justement des moyens financiers. Parce qu'on a en face aujourd'hui, dans une agriculture que vous dites dépassée aujourd'hui, encore des grands groupes. Et ça, comment faire pour imposer? Est-ce qu'il faut imposer à un moment? Comment y parvenir? Ça a été quand même l'une des grandes discussions. Alors, on ne pourra pas tout détailler ici, mais c'est vraiment l'un des freins principaux aujourd'hui à l'agroécologie.
Alors oui, il n'y a pas que la révolution culturelle, mais il y a sur le plan économique des choses très concrètes à faire. Il est reproché à ces agricultures qui relèvent de l'agroécologie d'être trop exigeantes en travail. Et du coup, on fait un usage intensif qui ne coûte rien, le soleil, le gaz carbonique, l'eau de pluie, alors il faut gérer ça, l'azote de l'air pour faire des protéines. On utilise au fond des ressources qui sont gratuites, certaines sont pléthoriques ou même renouvelables. Et du coup, pourquoi le produit est-il plus cher et pourquoi faut-il rémunérer mieux l'agriculteur? C'est parce que c'est exigeant au travail. En fait, à l'opposé de l'agriculture industrielle, c'est pour ça que je parle d'une agriculture artisanale, bichonnée, soignée, plus diversifiée, plus résiliente, on est bien d'accord, tout ça c'est très vertueux, mais on lui reproche d'être trop exigeante en travail, et on ne parviendra pas à promouvoir ces formes d'agriculture si on ne rémunère pas correctement, et là on est dans une question fondamentalement économique, comment mieux rémunérer le producteur qui pratique des agricultures relevant de l'agroécologie. Alors on voit bien déjà qu'une des façons de faire, c'est un peu comme l'agriculture biologique, c'est on change nos systèmes de production, c'est plus exigeant au travail, mais on va garantir aux producteurs une alimentation plus saine, parce qu'on va labelliser notre produit bio, il y aura une certification par une tierce partie pour vérifier si nos pratiques sont vraiment vertueuses et conformes à la qualité sanitaire des aliments, et évidemment des gens plus riches sont prêts à acheter des produits bio, au nom de leur intérêt privé, avoir une alimentation plus saine, et souvent aussi, je ne vous le cache pas, meilleur d'un point de vue gustatif, parce que souvent les variétés anciennes ont été sélectionnées sur le goût, et ça va de pair très souvent. Et donc oui, il y a des gens qui sont correctement rémunérés en pratiquant une agriculture biologique, quand il n'y a pas trop de crise, éventuellement de surproduction, ça peut arriver, conjoncturellement quand même, mais ils sont correctement rémunérés grâce au prix qu'est prêt à payer un consommateur qui a un pouvoir d'achat suffisant. Mais effectivement, ça ne peut pas suffire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat, il y a des couches au niveau de revenus modestes, qui doivent quand même avoir accès à des bons produits issus d'une agriculture très différente de l'agriculture bourrée de pesticides, d'antibiotiques et d'hormones, soyons clairs. Donc comment y arriver? On sait que ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie sont conformes à l'intérêt général, pas seulement pour la qualité sanitaire et gustative du produit, ça c'est plutôt l'intérêt du consommateur, mais parce que ça séquestre du carbone dans les sols, ça émet moins de gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, ça rediversifie les écosystèmes et donc ça sauve toute une série de pollinisateurs, d'insectes qui sont très utiles dans la biodiversité, donc ça permet aux écosystèmes, aux agroécosystèmes d'être plus résilients face aux aléas climatiques, peut-être même que certaines de ces pratiques agricoles permettent de résister à la sécheresse, permettent éventuellement de résister aux inondations, moins d'inondations dans la vallée parce qu'il y avait des haies, parce qu'il y avait un tapis herbacé, ou il y avait en tout cas une couverture végétale quasi permanente qui a ralenti les cours d'eau. À partir du moment où ces formes d'agriculture rendent un service ou des services d'intérêt général, je pense que c'est un peu contribuable de payer. Et vous savez que déjà le contribuable paye pas mal d'impôts pour subventionner l'agriculture. Sauf que ces subventions qu'on dit de la politique agricole commune sont plutôt proportionnelles à la surface et non pas en rémunérant le travail et le supplément de travail pour une agriculture de qualité. Donc je pense qu'on pourrait éventuellement réorienter ce qu'on appelle les subventions, les aides, ce qui est d'ailleurs péjoratif, pour un agriculteur se sentir mendiant, vous avez besoin de subventions, on va vous aider, il y a une grêle, on va vous aider, ce genre de choses. Non, on va vous rémunérer, on sait que c'est du travail en plus, pour pratiquer une agriculture qui sera plus résiliente, plus diversifiée, donc y compris quand il y aura une grêle, tout votre revenu ne sera pas affecté, ce sera plus résilient, vous n'aurez pas tout perdu. On va vous rémunérer pour le surtravail, à quoi correspondent les techniques inspirées de l'agroécologie. On sait que c'est plus de travail, c'est plus soigné, plus bichonné. Écoutez, alors on peut imaginer dans tel endroit, quelles techniques seraient les plus à même de séquestrer du carbone? Est-ce que c'est remettre les animaux sur la paille? Est-ce que c'est remettre des haies? Est-ce que c'est un bon assemblage dans la prairie entre légumineuses et graminées? Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais c'est des choses très techniques. À quel prix êtes-vous prêt à mettre en place ces techniques-là qui vont nous séquestrer du carbone dans les sols, qui vont éviter l'érosion des sols, qui vont éviter les inondations dans la vallée et qui sera conforme avec les accords de Paris de la COP21? Dites-moi le coût. C'est un peu comme quand le consommateur négocie un bon fromage. À quel prix êtes-vous prêt à un fromage, et tout. La personne dit, écoutez, moi, c'est plus de boulot. Mon fromage d'appellation contrôlée, excusez-moi, faudra le payer un peu plus cher. L'agriculteur nous dit, moi, je ne peux pas faire en dessous de ce prix-là. et on se met d'accord sur un prix par la voie contractuelle. Donc un agriculteur droit dans sa botte, par contrat, il rend service d'intérêt général. Là, il est fier parce qu'il est correctement rémunéré, il bosse pour la nation, il bosse pour l'intérêt du plus grand nombre, la qualité sanitaire, mais aussi l'adaptation au réchauffement climatique, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, donc l'atténuation de ce dérèglement climatique. Eh bien, je vais vous dire, on aurait des agriculteurs. Alors ça peut être aussi, on remet des légumineuses, ça ressuscite des abeilles, des pollinisateurs, ça permet aussi, y compris un rôle sur l'humus, mais plus grande biodiversité, et puis surtout moins d'engrais azotés de synthèse, donc moins de consommation de gaz naturel russe, moins d'émissions de protoxyde d'azote. C'est conforme à l'intérêt général, moins de pollution de la nappe phréatique avec des nitrates, c'est conforme à l'intérêt général. Ben, pareil, je demande dans là, on discute, à quel prix êtes-vous prêt à remettre telle ou telle légumineuse dans vos assolements, dans vos rotations, dans vos assolements de culture? À ce prix-là, top, là, je vous paye. Et on vérifie juste que le contrat est respecté. Et du coup, vous aurez des gens fiers. Voilà. Et on peut faire ça aussi avec ce qu'on appelle parfois les infrastructures écologiques, les haies, vous savez, mais les haies avec la couche herbacée, la couche arbustive, les hautes tiges. Avec ça, on peut faire du bois ramal fragmenté, fertiliser les sols. Mais ça peut héberger des mésanges qui s'attaquent aux champignons de nuit, moins de larves de capocaps. Ça, bon, on abandonne les insecticides et on a des pommes sans petits vers de terre et bio, sans pesticides. C'est une technique d'intérêt général. Ben écoutez, dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à mettre ces infrastructures-là, des nichoirs à chauves-souris ou des lieux à chauves-souris? En tout cas, il y a des quantités de choses à faire, mais qui n'existeront que si on rémunère l'agriculteur pour le service rendu, service environnemental d'intérêt général. C'est plus des aides, c'est plus des subventions, c'est vraiment une rémunération à la hauteur du travail. Vous le méritiez parce que vous avez bossé, et y compris, ça permet d'installer, éventuellement de créer des emplois, d'installer des jeunes dans les fermes. Ça permet même, je ne vous cache pas, dans certains lieux, que chacun travaille peut-être un peu moins, moins pénible, mais à plusieurs, en solidarité. Et quand dans une ferme, même une grande ferme par exemple, dans le bassin parisien, excusez-moi de parler du bassin parisien, mais quand une ferme céréalière commence à intégrer un élevage de brebis, bon, bah, y a un travail de plus pour l'élevage de brebis, la traite, et puis ensuite la transformation fromagère, il y a encore un emploi de plus. Bon, souvent c'est transformation fromagère, circuit court, commercialisation directe. Ben voilà que dans une ferme qui paraissait un peu grande, là, les 250 hectares, on était seul, maintenant on est trois. Et puis je vais vous dire, l'astreinte de la traite, certes, elle existe le matin, le soir, mais c'est substituable. On peut prendre des vacances parce qu'on est à trois et que tout le monde sait faire la traite. Et du coup, c'est très important, hein, quand on dit, c'est vrai qu'il faut rémunérer ce supplément de travail, mais il faut aussi alléger la pénibilité du travail. Alléger la pénibilité du travail, c'est pas renoncer. Moi, j'ai vu des robots solaires faucher l'herbe entre des rangées de vignes à Saint-Émilion. Je vous assure, on ne désherbait pas. C'était conforme à l'agroécologie. L'herbe empêchait l'eau de dévaler. L'herbe aidait presque à l'infiltration de l'eau dans le sol, parce que l'herbe sèche, quand la racine disparaît, ben, y a une galerie. Donc c'était conforme à l'intérêt de l'agriculteur et du plus grand nombre. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elle prolifère trop, il ne faut pas qu'elle monte en graines, donc qu'elle fleurisse et monte en graines, il faut donc la faucher. Moi, j'ai vu un petit robot solaire qui se réveille le matin avec le soleil, il se couche la nuit et il ne bouge pas pendant, avec la seule lumière de la lune, et il fait son boulot, il fauche, on entend très peu. Quand on a été chercher ça, ça a été géolocalisé sur l'écran de son portable. Donc je ne suis pas en train d'opposer des choses qu'on récupère de nos grands-mères, de nos grands-parents, excusez-moi, à des techniques hyper modernes, mais par contre, qu'on pense, alors chimisation, il faut être très clair, il ne faut pas que ce soit des produits en cils, on n'éradique plus, là par contre il faut savoir évincer tout ça, mais quand on pense mécanisation, robotisation et autres, il faut s'interroger, est-ce que c'est pour remplacer des gens par des machines et créer du chômage? Ça, non. Par contre, est-ce que ça permet au contraire de créer des emplois, d'installer des jeunes dans l'agriculture, soit fils d'agriculteur, soit hors cadre familial, avec une agriculture qui n'est pas trop pénible, parce que le travail du fauchage d'une herbe qui était considérée comme mauvaise et qu'aujourd'hui on construirait entre des rangées de vignes, ce serait trop de travail si on devait le faucher à la main? Eh bien écoutez, moi, si ça permet de créer de l'emploi, la mécanisation n'est pas toujours contre l'emploi. Attention, il n'y a pas de dogme, hein, quand on s'inspire de l'agroécologie. Hein. C'est parce qu'on observe les choses, on essaie de comprendre la complexité, on essaie de comprendre le fonctionnement, on essaie de comprendre les interactions entre le social, l'écologique, le technique, et à l'intérieur de l'écologie, le domestique, le sauvage, le physique, le vivant et ce genre de choses. C'est parce que justement on essaie de comprendre tout ça, tous ensemble, et là-dessus, les expériences paysannes, et les expériences paysannes d'aujourd'hui, hein, de paysan en paysan, on peut progresser, et pas forcément avec l'appui d'un agronome, hein, je veux dire, ça peut progresser, hein. Faut vraiment pas désespérer. Oui, il y a moyen. Mais par contre, vous parliez des lobbies, ça leur déplaît. Qu'effectivement, il faudrait qu'auprès des ministres, toutes ces expériences réussies, tous ces scientifiques qui sont capables de montrer qu'il y a des fondements scientifiques à ces formes d'agriculture, et un peu plus de poids que des lobbies qui défendent. Alors je vous dis tout de suite, les lobbies en général, ils parviennent à emporter le morceau pour défendre des emplois à court terme. Si on ne fait pas comme ça, c'est des abattoirs ici qui vont disparaître. Je pense à la Bretagne avec les poulets bas de gamme autrefois. Et au nom de l'emploi à court terme, il faut maintenir les filières telles qu'elles sont. Alors que précisément pour l'emploi, c'est les systèmes agricoles et même agro-industriels. Hein. Un poulet de louer, je vous dis tout de suite, au kilo de poulet crée plus d'emplois qu'un poulet bas de gamme de moins de 40 jours. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Mais si on veut sauver des emplois à long terme, il faut aussi ne pas céder à la pression des lobbies qui eux mettent en place. Ben oui, il y a des gens qui vont perdre leur emploi et tout, ce qui sont des questions très vraies. Hein. Il faut résoudre ça. Je pense que le rôle de l'État, c'est à tout niveau, hein, c'est la commune, c'est le département, c'est la région, c'est la nation, c'est éventuellement la politique agricole européenne. Il faut qu'à tous les niveaux, nous œuvrions pour que le travail supplémentaire, les emplois supplémentaires créés par l'agriculture qui relève de l'agroécologie soient correctement rémunérés, quitte parfois à déplaire effectivement à des gens qui vous diront tout le contraire, remplacer les gens par des machines, les gens qui désherbaient, remplacez-les par des désherbants, et tout ce genre de choses dont on sait que les coûts environnementaux, les coûts sanitaires, oui, sont colossaux. Mmh. C'est-à-dire que le lait pas cher, n'oublions pas, nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Le pain pas cher nous coûte très cher pour que l'eau potable ne soit pas riche en atrazine. Et c'est que des milliers de choses comme ça pour lesquelles le coût n'est pas dans le prix du produit. Or, le lobby, ils savent jouer sur le coût du produit. On oublie les coûts cachés, les externalités négatives, disent les économistes. Ça, faut qu'on arrête ça. J'aimerais que les représentants élus, les administrations aussi, écoutent un peu plus, et les scientifiques et les paysans.
Marc Dufumier, agroécologue, que vous pourrez entendre à nouveau, si vous le souhaitez, via le replay de l'onde curieuse depuis le site fréquence7.net. Vous pourrez aussi écouter la rediffusion de ce rendez-vous dès 17h, mais aussi aujourd'hui sur les ondes de Fréquence 7, parole de citoyennes et citoyens, c'est à 13h comme à 16h. Information valable si vous nous écoutez entre 12h et 12h30. Demain, pas de rendez-vous pour Cinémascope, puisque la grille de Fréquence 7 va s'ouvrir dès dimanche et pour 8 jours aux rencontres des cinémas d'Europe qui débutent ce samedi à Aubenas. On se retrouvera toute la semaine prochaine à 12h et 17h pour le journal des rencontres. D'ici là, portez-vous bien et donc à dimanche, 12h.